Radio Kapi.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du journal dont voici les titres. Au moins 439 violations ont été répertoriées à travers le pays, majoritairement dans la partie est en conflit. Ces chiffres sont contenus dans le rapport publié hier lundi par les BCNIDH. Selon le rapport, ce chiffre qui est en baisse par rapport au mois précédent ne reflète pas forcément une amélioration de la situation. La nouvelle société civile congolaise fustige la décision du gouvernement de l'accueil temporaire des ressortissants des pays tiers non en règle dans le cadre d'un partenariat avec les États-Unis. Tandis qu'au Kasaï central, la structure de la société civile dénommée Debout Congolais pour le développement durable juge normale la décision du gouvernement quant à ceux. Une nouvelle incursion attribuée aux rebelles des ADF a semé la panique dans la localité de Mambasa dans la nuit de dimanche à ce lundi 6 avril. Par conséquent, la société civile dénonce une inefficacité persistante des opérations militaires face aux exactions des ADF accusées d'avoir tué près de 100 personnes en l'espace de 2 semaines dans la région. Cette thématique était au centre des débats dans l'émission Dialogue entre Congolais d'hier lundi. Encore une fois, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Dégradation continue de la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme dévoile. Au moins 439 violations ont été répertoriées à travers les pays, majoritairement dans la partie est en conflit. Ces chiffres sont contenus dans le rapport publié hier lundi par les BCNIDH sur les tendances de janvier 2026. Une situation qui interpelle évidemment les autorités appelées à mieux protéger les civils et à poursuivre les auteurs de ces abus afin de lutter contre l'impunité, souligne encore le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Les détails avec Grace Hamzati Masanzi.
Selon le rapport, ces chiffres en baisse par rapport au mois précédent ne reflètent pas forcément une amélioration de la situation. Les violences persistent, surtout au Nord Kivu, au Sud Kivu et en Ituri, qui concentrent environ 97% des cas. Les groupes armés restent les principaux responsables, avec près de 70% des violations, notamment l'AFC M23, les ADF, les Wazalendo, les FDLR et d'autres milices locales. Les forces de sécurité sont aussi mises en cause, avec 30% des cas impliquant les FRDC et la police nationale congolaise. Autre préoccupation, les violences sexuelles liées au conflit, avec 61 victimes recensées en janvier, soit une baisse de 59% par rapport au mois précédent. Une diminution que le rapport attribue principalement à la sous-documentation des cas liés à l'insécurité et aux difficultés d'accès aux zones touchées. Le rapport évoque aussi un rétrécissement de l'espace civique marqué par des arrestations. 42 acteurs politiques étaient encore détenus fin janvier. Sur le terrain, les civils restent les premières victimes. Attaques, enlèvements et explosions dans des zones habitées. Malgré quelques poursuites, la situation demeure préoccupante, indique le BCNUDH.
Et puis, cette colère des jeunes du côté de l'Ituri. Regroupés au sein du Parlement des jeunes de cette province, ils condamnent l'utilisation des enfants dans les attaques armées par les ADF en territoire de Mambasa. Dans une déclaration publiée hier lundi à Bunia, cette structure d'encadrement des jeunes parle de plus de 100 enfants déjà pris en otage par ces rebelles en l'espace de quelques semaines seulement. Il spécifie également que certains d'entre eux sont utilisés comme boucliers humains, d'autres comme enfants soldats, ce qui, selon Gloire Abassi, son président, viole les conventions internationales et constitue un crime grave contre l'humanité. Gloire Abassi interpelle ainsi la communauté nationale et internationale face à cette situation qui, selon lui, risque de détruire l'avenir de toute une génération. Il est au micro de Martial Kiza Biamungu.
Les comportements et l'attitude des ADF constituent un crime grave contre l'humanité. L'AFA n'a pas sa place dans les groupes armées. L'AFA n'a pas la place d'être importeur d'armes, mais plutôt cette AFA devrait être protégée et sécurisée. Mais ce qui s'observe aujourd'hui constitue un crime grave contre l'humanité. Et c'est ici le lieu pour nous de demander au gouvernement congolais de s'investir afin de mettre fin à cette aventure de ces ADF qui aujourd'hui semble devenir un alibi pour toute notre génération. Et nous demandons logiquement à la Cour pénale internationale de tout faire afin de mettre la main sur les prédateurs liés à cette aventure où aujourd'hui les enfants qui devraient être dans les écoles, les enfants qui devraient être préparés pour l'avenir sont en train d'être utilisés pour tuer les gens, pour être instrumentalisés jusqu'à ce niveau. Nous en avons marre.
Retour sur l'annonce par le gouvernement congolais de l'accueil temporaire des ressortissants des pays tiers non en règle dans le cadre d'un partenariat avec les États-Unis. Une annonce qui suscite déjà des réactions. La nouvelle société civile congolaise, par exemple, exprime sa profonde indignation face à cette initiative prise d'après elle sans aucune consultation du peuple. Elle les formule dans un communiqué publié hier lundi à Kinshasa. Pour les coordonnateurs de cette structure citoyenne, cette décision soulève de graves préoccupations sécuritaire, politique et sociale. Pour Jonas Tchombela, le peuple congolais garde encore en mémoire les conséquences dramatiques de l'opération turquoise d'il y a 30 ans, dont les effets ont contribué à des décennies d'instabilité, de conflits armés et des pertes humaines massives. On l'écoute au micro d'Alain Irung.
À ce jour, l'État congolais peine à remplir ses missions essentielles. 1. Absence de recensement fiable de la population. 2. Difficulté à sécuriser le territoire national, notamment dans sa partie orientale. 3. Faible capacité de contrôle des flux migratoires. Dans un tel contexte, accueillir de nouveaux ressortissants étrangers, même à titre temporaire, constitue une prise de risque majeure pour la stabilité nationale. La nouvelle société civile congolaise considère cette décision comme une faute politique grave, un choix dangereux pour la sécurité intérieure, enfin une menace potentielle pour la cohésion nationale. En conséquence, la nouvelle société civile congolaise exige la suspension immédiate de cette initiative, demande la transparence sur les accords conclus, appelle à un débat national inclusif sur toute politique migratoire engageant la souveraineté du pays.
Pendant ces temps, au Kasaï central, la structure de la société civile dénommée Debout Congolais pour le développement durable juge normal la décision du gouvernement congolais d'accueillir des immigrés en provenance des États-Unis d'Amérique. Dans une interview accordée à Radio Kapi, Daniel Ntumba-Chimanga, son coordonnateur provincial, indique que cette décision s'inscrit dans le cadre du droit international. Il précise que cette mesure n'aura pas d'impact négatif sur la RDC dans la mesure où ces immigrés ne séjourneront pas longtemps dans les pays et que leur prise en charge est assurée par le gouvernement américain. Daniel Ntumba-Chimanga invite par ailleurs la population congolaise à les accueillir comme des frères. Il s'est confié au micro d'André Katende Ngalamouloumé.
Nous avons tous suivi les communiqués du gouvernement de la République démocratique du Congo par rapport à la réception des émigrés. Nous sommes dans une obligation des droits internationaux. Nous devons le recevoir dans la Convention de Genève, à son article 33. On parle des principes de non-refoulement. Si les Américains trouvent que dans leur pays, il y a quand même le risque, il y a la guerre, il y a les violences, ils peuvent choisir la République démocratique du Congo. Donc, on ne peut pas abandonner quelqu'un qui vient, qui est dans une situation difficile, parce que la Convention des droits de l'homme, de droit international, reconnaît qu'on doit protéger une personne qui est en danger comme ça. C'est comme ça que nous, ici, en RDC, nous sommes prêts à recevoir nos frères qui viennent des États-Unis d'Amérique pour un temps. Et surtout que c'est leurs moyens qui vont mettre à la disposition des organisations qui sont spécialisées à pouvoir prendre en charge tous ces gens-là.
Autre actualité, la cité d'Nkamba dans le Congo central désormais appelée à être élevée au rang de ville sainte. C'est le chef de l'État qui a officiellement annoncé l'octroi d'un statut spécial à cette cité. Félix Tshisekedi a exprimé cette intention hier lundi à Nkamba à l'occasion justement de la commémoration de la journée nationale dédiée au combat du prophète Simon Kimbangu. Cette décision entend renforcer la portée spirituelle et culturelle de ces lieux surnommés Nkamba Jérusalem tout en reconnaissant reconnaissant l'influence majeure du kimbanguisme dans l'identité nationale congolaise. Plus de détails avec Blaise Ndongala Mayanda.
C'est sous une pluie battante que le président de la République a fait son entrée à la cité des Kamba, à environ 170 km de Kinshasa, pour célébrer la journée qui symbolise le 55e anniversaire de la création de l'église kimbanguiste. Pour cette édition 2026, cette commémoration a pris une dimension historique particulière. Lors des cérémonies officielles à Kamba, le chef de l'État a officiellement exprimé son engagement d'élever la cité des Kamba au rang de ville sainte.
Le 6 avril est décrété journée chômée et payée en RDC. Après avoir échangé avec Papa Simon, j'ai pris la décision d'octroyer un statut spécial à la cité d'Inkamba qui devient désormais une ville sainte.
Cette décision renforce les rôles spirituels et culturels de ces lieux, souvent appelés Kamba Jérusalem, et reconnaît l'influence majeure du kimbanguisme dans l'identité nationale congolaise. Au-delà de la communauté kimbanguiste, cette journée est devenue un rendez-vous pour tous les Congolais afin de valoriser l'histoire nationale, de renforcer le patriotisme chez les jeunes générations et de promouvoir l'unité nationale dans un contexte de défis sécuritaires et sociaux politico. En célébrant Simon Kimbangu, la RDC réaffirme sa volonté de se réapproprier son récit historique et de placer les valeurs de liberté et de justice au cœur de son développement.
Et en rapport toujours avec cette journée hier lundi dédiée à Simon Kimbangu, la population de l'Ituri, en particulier les groupes armés, sont appelés à s'impliquer dans la recherche de la paix, à l'exemple de Simon Kimbangu lui-même, figure emblématique de la lutte pacifique en RDC. Cet appel a été lancé par un responsable de l'église de Jésus-Christ sur la terre, par le prophète Simon Kimbangu Abunia. C'était comme je l'ai souligné à l'occasion de la commémoration de la journée dédiée à ces leaders religieux et symboles de la conscience africaine. Selon Isidore Kivukama, Simon Kimbangu a mené un combat pacifique fondé sur des paroles prophétiques contre la colonisation et non par la violence. Il est au micro de Christelle Aïchi.
La journée du 6 avril est une date symbolique. Cette date commémore le début du ministère messianique des prophètes Simon Kimbangu. Mais c'est grâce au ministère de Simon Kimbangu qu'aujourd'hui l'homme noir est devenu libre. Le peuple congolais, le peuple ituriens en particulier, ne mérite plus de souffrances comme ça. Nous avons été libérés et spirituellement et politiquement et économiquement. Les gens sont morts pour la liberté de ces pays. Le sang a coulé pour la liberté du Congo. Comment les enfants de l'Ituri, comment l'Ituri peut continuer à subir des supplices? La paix doit revenir dans cette partie du pays, une partie qui est riche d'ailleurs. Nous appelons les enfants de l'Ituri à considérer la souffrance de Simon Kimbangu, la souffrance de Lumumba, la souffrance de Kasavubu pour restaurer la paix dans ce pays. Les ennemis de l'extérieur nous font la guerre, on doit plus se faire la guerre à l'intérieur. Nous devons ruminer la paix. C'est regrettable que les enfants de l'Ituri puissent entretenir la haine et la division et puissent faire couler le sang des innocents ituriens. Nous interpellons les enfants de l'Ituri à revenir à la paix.
Je vous signale que plusieurs activités ont été organisées à Bunia, au siège de cette église, pour honorer la mémoire de Simon Kimbangu. Parlons de cette situation préoccupante au Nord Kivu à présent. Depuis plus de 4 ans, la ville de Beni fait face à une carence des registres d'enregistrement d'enfants, notamment pour l'établissement des actes de naissance. Une situation confirmée par le bureau local de l'état civil. Cette semaine, Radio Kapi consacre une série de reportages à cette crise silencieuse qui prive des milliers d'enfants de leur identité légale et compromet leurs droits fondamentaux. Dans ce premier numéro, nous faisons le constat sur le terrain. Reportage signé Martial Papimoukeba.
C'est dans la ville et les territoires de Beni que la situation se pose avec acuité. L'absence des registres d'enregistrement, notamment pour les actes de naissance. Une réalité qui inquiète de nombreux parents, dont certains cherchent ces documents depuis plusieurs années.
Je n'arrive pas à obtenir l'acte de naissance de mes 2 enfants depuis 4 ans. À chaque fois que je me rends au bureau de l'état civil, on me répond qu'il n'y a pas de registre. J'ai peur que mes enfants n'existent pas aux yeux de l'état. Sans acte de naissance, qui pourra les protéger si quelque chose leur arrivait? C'est très inquiétant pour leur avenir.
Face à cette situation, le Parlement d'enfants de Beni tire la sonnette d'alarme. Son porte-parole, Georges Kambale Ngumayiri.
Une situation qui inquiète l'avenir de plusieurs enfants et l'avenir de notre pays, parce que souvent on dit que l'enfant constitue l'espoir et l'avenir de tout un pays. Avec l'absence d'acte de naissance, quelle est la protection qui est réservée à tous ces enfants?
En attendant, de nombreux enfants se retrouvent sans identité légale. Beni, Martial Papimoukeba, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Guerre au Moyen-Orient, Israël estime avoir porté un coup sévère au régime iranien après des frappes qui, lundi 6 avril, ont atteint le site d'Assalouye dans le sud du pays. Téhéran martèle que la situation est sous contrôle dans ce qui est le plus grand complexe pétrochimique au monde, même si l'étendue des dégâts reste à évaluer. Mais, selon les experts, cette frappe ne touche pas le régime, mais les Iraniens avant tout.
L'invité.
Une nouvelle incursion attribuée aux rebelles des ADF a sémé la panique dans la localité de Mambasa dans la nuit de dimanche à ce lundi 6 avril. Par conséquent, la société civile dénonce une inefficacité persistante des opérations militaires face aux exactions des ADF accusées d'avoir tué près de 100 personnes en l'espace de 2 semaines dans la région. Ces regains des violences des ADF dans Mambasa étaient au centre des échanges entre les intervenants dans l'émission Dialogue entre Congolais d'hier lundi. On les écoute au micro de Guimate Tsongo.
Abdallah Penembaka, vous êtes député national et membre de la majorité présidentielle, notable du territoire de Mambasa et ancien gouverneur de l'Ituri. Plus de 100 personnes tuées en 2 semaines dans cette partie du pays, donc dans Mambasa. Comment vous comprenez ces regains de violence des ADF dans ces territoires de Mambasa en Ituri? C'est vrai que vous parlez d'un manque d'anticipation, mais au-delà, est-ce qu'il n'y a pas d'autres facteurs qui peuvent expliquer cela? Pourquoi Mambasa est ciblé? Pourquoi Mambasa centre est ciblé?
Monsieur le journaliste, les ADF qui étaient hier à Yurumu, ils étaient à Lubero et à Beni. Après de frappes de forces mutualisées, FRDC, IPDF, et je l'ai toujours dit, par manque d'une bonne coordination, parce qu'on devrait leur barrer la route pour qu'ils ne s'affaussent pas dans la grande forêt. Au lieu que la coordination soit bien faite, nous avons suivi ce qui s'est passé dans la mutualisation. Le plus important pour nous, c'est que la population ne demande que la paix. Que ceux-là qui sont amenés à nous sécuriser, qu'ils coordonnent très bien les opérations, qu'ils anticipent, qu'ils écoutent la population et qu'ils font face à des actions à même de pouvoir nous sécuriser. C'est ce que nous sommes en train de demander. Et pour le moment, comme vous le savez, les ADF, en petits groupes, ils infiltrent, ils ont des éclaireurs qui précèdent et qu'il faut que de l'autre côté, qui soit le premier. Notre armée ne fait que riposter, ne fait que les poursuivre. Et lorsque l'armée intervient, l'armée ne sait pas les pourchasser. C'est comme aujourd'hui, on est surpris qu'en dehors, on les a juste délogés peut-être du chef-lieu, mais on ne les a pas poursuivis. Ils sont restés et personne ne les a inquiétés. Si aucune opération n'est menée dans 48 heures, 24 heures, il y a risque qu'un autre coin du territoire soit attaqué.
Et donc, s'il faut évaluer les opérations conjointes FRDC et UPDF qui sont en cours dans cette région depuis novembre 2021, vous diriez qu'il y a un problème de coordination?
Je l'ai dit et je le répète, il se pose un problème de coordination. Et c'est là où nous avons toujours déploré. Comment un accord signé avec le gouvernement central a des difficultés pour être accepté par les autorités de l'état civil au niveau local?
Monsieur le journaliste, les autorités au niveau local n'ont pas la même perception qu'au niveau national?
Au niveau provincial, c'est un autre problème entre l'UPDF et l'état des sièges. Et vous suivrez, heureusement que nous avons...
Ça, c'est au niveau provincial?
Ouais.
C'est un conflit entre les deux?
Vous pouvez le qualifier comme un conflit, mais il y a mes ententes. Ils ne s'attendent pas, ils ne s'accordent pas sur les opérations sur terrain.
Alors, par conséquent, c'est la population qui en paye les frais?
Malheureusement.
Merci Luc Malembe, vous êtes vice-président national du parti politique dénommé Agir Républicain pour la Renaissance du Congo. Vous êtes membre de l'Union Sacrée de la Nation et vous êtes aussi proche du gouverneur de l'Ituri. Comment vous réagissez à l'extension, n'est-ce pas, des ADF dans certains territoires de l'Ituri et plus particulièrement dans les territoires de Mambasa?
Ça, c'est le résultat des opérations que j'ai qualifiées dès le départ de mal planifiées et de mal intentionnées de l'armée ougandaise, l'UPDF. C'est l'UPDF...
Il y a des opérations conjointes FRDC-UPDF. C'est-à-dire on ne parlerait pas des opérations des Ougandais sans pour autant parler des opérations des FRDC, parce que c'est des opérations conjointes.
Est-ce que c'est vraiment conjointe? On ne sait pas. Mais tout
officiellement, c'est des opérations conjointes.
Visiblement, tout ce qui a intéressé l'Ouganda, c'était d'éloigner la menace ADF de sa frontière et non de nous aider. Pour preuve, monsieur le journaliste, depuis un mois que les ADF sont en train de tuer, ils ont tué la Amuchacha, ils ont tué à Bafouakoa, ils ont tué aujourd'hui, ils ont failli faire un carnage encore à Mambasa Centre. Où est l'armée ougandaise? Vous parlez d'opérations conjointes, demandez s'il y en a. Il n'y en a pas, ils ne sont pas visibles.
Merci Rigen Miviri, vous êtes avocat et chercheur à Ebouteli, partenaire de recherche du groupe d'études sur le Congo GEC en sigle. Face à cette divergence par rapport aux intérêts des uns des autres sur le terrain, que faut-il faire aujourd'hui pour sécuriser la population afin qu'elle ne soit pas davantage victime de ces divergences d'intérêts?
Il faut encore rappeler qu'il y a l'essentiel, et l'essentiel c'est la protection des civils. Donc même les opérations militaires doivent avoir cette composante et doivent avoir ça comme priorité. Et ensuite, il faut que les leaders d'opinion, les leaders de tous les bords politiques puissent se parler, puissent contribuer à la solution au lieu de s'invectiver.
Vous pouvez suivre l'émission Dialogue entre Congolais sur toutes nos plateformes numériques ainsi que sur notre site internet www.radiokapi.net. Voilà qui met fin à cette grande édition du journal Parler du Matin, préparée pour vous par Lievin Mwinga Vubu et mise en onde par André Mongou. Merci de nous avoir suivis.